Bon vendredi matin tout le monde, j'espère que ça se passe bien pour vous. On va parler dans un instant d'une nouvelle assez intéressante de l'Institut économique de Montréal qui affirme qu'on a pris des moyens un peu trop drastiques face à la COVID-19. Puis je vais vous poser la question, pensez-vous qu'on a eu raison de nous confiner autant? C'est ce que j'appelle l'espèce de question Voldemort. Tout le monde se la pose, cette question-là. Personne ne la pose vraiment. Ben, je vais vous la poser ce matin. Et je veux également vous dire qu'en deuxième heure d'émission, on va revenir sur cette nouvelle qui nous a tous fait sourire depuis hier et beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Vous avez été nombreux à faire des blagues là-dessus quand vous avez vu cette nouvelle, donc, de l'Université Harvard qui nous dit on devrait avoir des rapports sexuels, donc on devrait faire l'amour avec un masque. C'est-à-dire que avec votre conjoint, conjointe, et que les deux portent un masque. Évidemment, tu lis ça puis tu te dis, ben voyons donc, comment fait-on ça? Une chose est sûre, c'est que ça nous donnera l'occasion de vous demander comment vous gérez votre couple à distance. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont trouvé assez difficile, celle-là. Puis même ceux qui vivaient ensemble on trouvait ça difficile aussi pour d'autres raisons. Alors, on va parler de ça tout à l'heure avec la sexologue psychothérapeute Sylvie Lavallée. Et on aura la belle visite à distance tout de même. On garde le 2 mètres, on le sait, on obéit aux règles, on est docile. Je vais vous demander comment ça va, votre santé mentale. On a la belle visite de Patrice Michaud qui vient de sortir une nouvelle chanson aujourd'hui qui est un peu sa réaction à 3 mois de confinement. Ça s'appelle La Grande Évasion. Je pense qu'on a juste le titre dit tout. On a tous eu envie de s'enfuir quelque part. On parlera avec Patrice et vous me direz, vous, comment ça va aujourd'hui. Mais bon, je reviens à cette étude parce qu'elle est vraiment, vraiment intéressante et ça nous amène à nous questionner finalement sur ce qu'on subit depuis 3 mois. Puis je dis subit, puis je pense que vous le vivez comme ça aussi. C'est pas notre choix à personne. Remarquez que c'était pas le choix des gouvernements un peu partout ici ou ailleurs d'avoir à gérer ce genre de crise. Un peu partout, là, dans tous les médias internationaux, que ce soit le Nouvel Observateur jusqu'au New York Times, en passant bien sûr chez nous par nos quotidiens. Tout le monde commence à se poser la question et à interviewer des gens aussi qui disent « il faut savoir dire », je vous résume ça en gros, là, « il faut savoir dire, nous nous sommes trompés ». Chez nous au Québec, c'est au moment où on parle d'une deuxième vague, c'est l'Institut économique de Montréal qui affirme donc qu'on a pris des mesures beaucoup trop drastiques face au virus et qui remet en question finalement ce confinement. Ça vient avec une note extrêmement détaillée où on fait finalement le bilan depuis la mi-mars, où la plupart des Canadiens considéraient que la COVID, c'était juste un problème chinois, là. Et soudainement, le monde a changé, écrit-on dans cette note de l'Institut économique de Montréal. Au 13 avril, il y avait près de 6 millions de Canadiens qui avaient demandé l'aide d'urgence. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à confiner tout le monde? Bien, si vous voulez bien, on va s'adresser à l'économiste senior de l'Institut économique de Montréal qui a travaillé justement sur cette note avec un collègue. Gaël Campan est avec nous. Bonjour, Monsieur Campan.
Bonjour et merci de me recevoir dans votre émission.
J'ai trouvé vraiment intéressante, puis je recommande à tout le monde de la lire, votre note, parce que d'abord, je trouve que c'est un bilan assez bien fait de ce qu'on vit depuis 3 mois. Et en même temps, bien, ça explique certaines choses. Entre autres, ce que vous dites, c'est en gros qu'on s'est basé pour expliquer le confinement et surtout le justifier. On s'est basé sur un modèle complètement erroné qui nous est venu d'un professeur, Neil Ferguson, du Imperial College London, qui s'est lancé sur un modèle épidémiologique qui a fait le tour du monde, qui a été même la base pour laquelle l'Organisation de la Santé nous a tous encouragés à être confinés et sur lequel le Canada s'est beaucoup basé également. C'est un peu ça, finalement, votre analyse.
Oui, en effet. Alors, juste deux petites corrections. C'est vrai qu'on met en avant ce modèle en particulier parce qu'il a été très influençant et aussi parce qu'il avait les projections les plus catastrophiques. Donc, c'est celui qui est le mieux à même de justifier des mesures les plus drastiques. Mais vis-à-vis des mesures qui ont été prises, comme vous dites, c'était il y a 3 mois, il y avait très peu d'informations. Notre propos, c'est pas de dire ce que le gouvernement aurait dû faire ou ne pas faire, c'est juste de constater qu'entre le confinement intégral qui a été choisi sur la base des prédictions les plus catastrophiques et ne rien faire du tout, il y avait toute une série de mesures intermédiaires qui étaient disponibles. Et d'ailleurs, on a vu dans un certain nombre de pays qu'elles ont donné de très bons résultats. Donc, il s'agit juste de dire Qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois quand un événement similaire va se produire? Comment est-ce qu'on peut avoir une organisation de décision, une prise de décision qui soit plus riche avec des équipes interdisciplinaires, un débat contradictoire et donc une analyse coût-avantage plus fine et plus riche qui permette de prendre des décisions mieux informées, on va dire. Mais disons que notre propos, ce n'est pas du tout de pointer du doigt le gouvernement, parce que le manque de préparation à ce type d'événements, il date pas de ce gouvernement. Ce qui nous intéresse, c'est de nous projeter dans l'avenir pour dire quoi faire dans le futur quand la situation se représentera.
Mmh. Mais est-ce que d'après vous, après toute cette analyse que vous avez faite, est-ce qu'on avait raison de nous confiner autant?
Encore une fois, après coup, on est toujours plus intelligent. Donc, sur la base de certaines prédictions qui étaient très, très extrêmes, le gouvernement a choisi l'option du confinement généralisé obligatoire. Voilà, est-ce qu'ils ont choisi de se faire reprocher de n'avoir fait trop plutôt que de ne pas avoir fait assez? Je pense que ça se justifie complètement sur le plan politique. On ne savait rien à l'époque, on n'avait que des modèles avec des hypothèses qui se sont avérées fausses. Donc c'est plus facile de le dire maintenant qu'on a 3 mois de faits et de données qui ont été collectées dans différents pays du monde. Les instituts principaux comme le CDC ou l'OMS sont revenus sur leurs prédictions. Donc voilà, on sait bien que c'était pas aussi dangereux que ce qu'on avait craint. Et c'est juste dans l'avenir d'être capable de faire ce genre d'arbitrage plutôt que de systématiquement aller vers les mesures les plus protectrices et qui sont aussi les plus coûteuses en termes d'économie générale.
Ouais.
Et de qualité de vie.
Mais vous remettez, si je vous ai bien compris, quand même, vos chercheurs remettent en question le bien fondé de ce confinement général. Quand on regarde, et d'ailleurs vous le dites, vous posez la question, que s'est-il produit? Puis c'est là où vous expliquez un peu l'influence de ce professeur Neil Ferguson du Imperial College London avec son modèle. Vous essayez d'expliquer comment ça se fait que ce chercheur-là, ce professeur-là, a eu une si grande influence sur les décisions de tous les gouvernements. Puis vous avez raison de dire que c'est pas juste au Québec, le Canada a fait pareil, puis il y a d'autres gouvernements qui ont suivi, la majorité des pays ont été confinés, donc il y en a que quelques-uns qui ont décidé de faire autre chose. Donc, comment ça se fait qu'on s'en est retrouvé aujourd'hui, 3 mois plus tard, à dire, ah, finalement, le modèle de base, là, le modèle sur lequel on s'est basé, c'était pas un bon modèle?
En vérité, ça aussi, ça met en cause, j'ai envie de dire, l'organisation de la science aujourd'hui. Parce que c'est vrai que l'Imperial College, c'est un institut très prestigieux qui, dans 99% des cas, produit de très belles études. Il y a d'autres instituts aussi très prestigieux comme le Lancet, par exemple, dans le domaine médical, qui ont récemment revenu en rebours sur des études, j'ai envie de dire, de très mauvaise qualité qui n'est pas du tout dans leur standard. Donc c'est normal qu'on se réfère à ces instituts parce qu'ils sont prestigieux, ils ont de l'autorité et dans le passé, ils ont fait beaucoup de choses qui étaient valables. Par contre, je pense que ça n'empêche pas d'ouvrir un peu le débat et de permettre à des avis contradictoires de faire des simulations de scénarios alternatifs qui permettront de prendre une décision plus mesurée, plus riche d'informations et encore une fois avec une meilleure approche des coûts et des bénéfices de chaque dispositif, de chaque décision.
Juste pour reprendre le modèle, vous dites dans votre note économique, selon le professeur Ferguson, sans la moindre intervention, la COVID-19 infecterait 7 milliards d'individus et en tuerait 40 millions.
Oui, on voit bien que c'était extrêmement, c'était extrême comme prédiction. Après, voilà, c'était un institut parmi d'autres, c'était un modèle parmi d'autres. Il y avait des modèles qui étaient un petit peu plus mesurés dans leur approche et dans leurs chiffres. Ils n'ont pas été retenus, en tout cas leur influence était moins grande que ce modèle-là. Et voilà, donc il faut apprendre et penser à l'avenir pour faire mieux la prochaine fois. Je pense que c'est la leçon à retenir.
Ouais. Vous dites aussi que ce que je comprends de les lignes, c'est que s'il n'y avait pas eu ce professeur qui avait des liens quand même assez privilégiés avec l'Organisation mondiale de la santé, il était perçu, l'Imperial College est perçu vraiment, vous le dites, je vous cite, comme un étalon d'or, ces modèles mathématiques informant directement les politiques des gouvernements. Donc, on s'est vraiment basé sur cette étude en croyant vraiment ce qu'elle prônait là, comme méthode.
Oui, de nouveau, à cause du prestige et de l'autorité de l'Imperial College. Après, il y a des gens très compétents qui, lorsqu'ils ont vu que la réalité était très éloignée de leurs prédictions, ils ont commencé effectivement à examiner ce modèle et à se rendre compte qu'il y avait de sérieux problèmes de documentation, de langage informatique qui était obsolète, Et le fait que quand on appliquait ce modèle avec différents types d'ordinateurs, avec les mêmes hypothèses, on avait des résultats différents. Donc il y avait un gros problème de fiabilité. Voilà, simplement, on a fait confiance parce que c'était un institut, une organisation de prestige et d'autorité. Maintenant, la leçon à apprendre, c'est que ça ne suffit pas. On ne peut pas simplement prendre à première vue comme ça, pour argent comptant, l'avis d'un institut aussi prestigieux que soit, il faut pouvoir élargir le débat, avoir un débat contradictoire, prendre le temps de ce débat. Et ça, évidemment, c'est pas possible de le faire dans l'urgence. Donc aussi, je pense que la recommandation qu'on fait, c'est d'avoir ces discussions entre deux crises, au moment où il faut se préparer, et pas au moment de la crise, parce que dans ces moments-là, on prend des décisions qui sont peut-être plus radicales que ce qu'elles devraient, ouais. Mais c'est plus par manque de préparation que par manque de compétences.
Mmh. Donc vous dites qu'on n'était pas préparé du tout, là.
Ben, on est obligé de constater qu'il y a d'autres démocraties qui étaient mieux préparées que nous, et qui ont donc pris des mesures qui se sont avérées tout aussi efficace, voire plus efficace, sans passer par le confinement intégral.
La Suède, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, vous nommez entre autres ces pays-là dans votre note, des pays qui ont essentiellement, selon le professeur Ferguson, c'était l'exemple du pire scénario. Il aurait dû avoir une hécatombe parce que les restaurants, les bars sont restés ouverts. Il n'y a pas eu de recommandation. Il n'y a eu qu'une recommandation de distanciation physique, puis semble-t-il qu'elle a plus ou moins été suivi par les gens. Bref, il n'y a jamais eu... Allez-y.
Il y a ces pays, effectivement, et puis même là maintenant, on sait que les représentants de la santé publique, par exemple en Norvège, qui avaient adopté le confinement, sont en train de revenir en arrière en disant « bon, c'était une mesure qui finalement n'a pas porté les résultats qu'on espérait » et qui eux-mêmes commencent à revoir leur copie et à dire « la prochaine fois, on fera différemment ouais. ». Donc de nouveau, au début, tout le monde était dans le aveugle, enfin beaucoup n'étaient pas préparés, c'était quelque chose de nouveau. L'inconnu, ça crée toujours des sentiments extrêmes. Voilà, maintenant, préparer l'avenir, c'est ce qui est important aujourd'hui. C'est vers ça que nous, on voudrait que le propos et la discussion s'orientent.
Ouais. Eh bien, on va justement l'orienter avec nos auditeurs, également avec une épidémiologiste qu'on interviewe souvent à l'émission, la docteure Nima Machouf, qui travaille à la clinique du Quartier Latin, qui va nous donner son opinion après la pause. Vous restez avec nous, M. Campan, de l'Institut économique de Montréal. Intéressante, en tout cas, cette étude. Je trouve vraiment, là, si vous avez le temps, allez la lire. Ça remet en question le modèle. Le titre est assez sans équivoque. Le titre, c'est « Le modèle défectueux qui a confiné le Canada ». Je pense que c'est assez clair. Je vais vous donner nos numéros pour intervenir là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez? Puis c'est sûr qu'on est toujours plus intelligent après, comme dit mon invité, qu'avant. Et puis, c'est pas question de jouer les gérants d'estrade ce matin, mais on est capable aussi, puis on a le droit, comme citoyen, de faire des bilans pour que la prochaine fois, on prenne des mesures qui soient les plus logiques, les plus réalistes, les plus à propos. Donc, je vais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous estimez qu'on a peut-être été trop fort en confinant de façon généralisée tout le monde, en disant à tout le monde « Ah ouais, à maison, on ferme les entreprises. » 514-790-9850 de l'extérieur, un peu partout au Québec, en Outaouais, Estrie, dans la région de Québec, en Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dites-nous comment vous voyez ça. Vous faites le 1-866-790-9850. À tout de suite. A-t-on vraiment pris des moyens trop drastiques face à la COVID-19? Est-ce qu'on avait raison de nous confiner autant? La note de l'Institut économique de Montréal ce matin a un titre qui est « On ne peut plus équivoque ». On parle d'un modèle défectueux qui a confiné le Canada. Jean, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Non, moi, personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Je vais te le dire, j'ai trois petits points. Mm-hmm. Pour commencer, je m'abstiens tout le temps quand je connais pas un domaine. Mm-hmm. Un exemple, ce domaine-là, scientifique, parmi les scientifiques sur la Terre, il y avait des divergences d'opinion parmi eux. Mm-hmm. OK? Alors là, c'est donc facile. Moi, je pense qu'on a pris une bonne décision. Puis cette pandémie-là m'a fait enlever de mon dictionnaire, OK? Tu sais, la fameuse parole qu'on dit souvent, Isabelle, on aurait dû.
Ouais.
On aurait dû. Mm-hmm. Mais c'est bien de valeur, là. Moi, je l'ai enlevé du dictionnaire Larousse, là, aujourd'hui. Là. Bon. On aurait dû.
Merci.
Okay?
Merci, Jean. Merci bien. Jocelyn, votre opinion là-dessus?
Moi, je suis 100% d'accord avec ça.
Avec le fait qu'on a été trop confinés, vous voulez dire?
Définitivement. Okay. Parce que si on va au niveau de la science, là, parce que moi, j'ai écouté beaucoup de scientifiques sur ouais. Internet, on peut en rejoindre partout. Puis plusieurs s'entendaient sur une chose, que notre système immunitaire a besoin de travailler. On s'entend là-dessus. Mm-hmm. Puis pour développer une immunité collective, là, il faut absolument que les gens fassent face au virus. Je m'explique. Si au début, il aurait fait ce qui aurait été, pour moi, l'idéal, un équilibre entre les deux, c'est confiner les personnes de mon âge, moi j'ai 66 ans, de 65 ans en montant, les confiner comme ils ont fait avec tout le monde, mais le reste de la population qui sont moins à risque, de les laisser aller en faisant attention. Parce qu'on sait du début, même en Chine, on savait qu'il y avait un potentiel de dangerosité beaucoup plus élevé aux gens âgés.
Ouais.
Puis aux personnes qui avaient des problèmes de santé évidents, comme les l'asthme, etc., qu'on a parlé souvent dans les médias. Fait que je me dis dans un sens qu'ils ont fait une erreur de débutant parce que les gens ils étaient en panique. Il ne s'écoutait pas.
Merci, Jocelyn. Justement, vous parlez des scientifiques. On a une épidémiologiste avec nous. Elle travaille à la clinique du quartier latin. C'est la docteure Nima Machouf. Bonjour, docteur Machouf.
Bonjour, Isabelle.
Vous avez donc entendu ce que dit l'Institut économique de Montréal, modèle défectueux qui a amené un confinement généralisé au Canada, au Québec bien sûr, qui a mis un frein d'urgence sur toute l'économie. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on est peut-être confiné trop? Comment vous voyez la chose, ou Dr Machouf?
Moi, je pense pas du tout qu'on a été confiné trop. Bien au contraire, je pense qu'on n'a pas été confiné convenablement. Et c'est à cause de ça que ça dure trop longtemps. Si on regarde le moment où on a été confiné au Québec, la décision a été prise très bien, quand même assez rapidement. Il n'y avait que 13 cas au Québec quand ils nous ont donné la consigne du confinement, télétravail, fermeture des écoles, des piscines, des bibliothèques, tout ça.
Le 13 mars, en fait.
Des lieux publics. Oui, c'est ça. Ouais. On avait 13 cas seulement au Québec, 12 ou 13 cas au Québec. Alors, on n'a pas attendu avant de prendre des mesures publiques pour briser la chaîne de transmission. Mais notre problème, c'était que le confinement, on ne l'a pas fait bien. Et on n'avait pas les moyens de tester, on n'avait pas de masques. Ils ont dû gérer beaucoup de pénuries depuis le début de l'épidémie au Québec. Pas de masques, pas de personnel de santé assez, pas de préposés dans les centres pour personnes âgées. Le confinement, on l'a mal fait. Et je m'explique. Si on n'avait pas fait de confinement, dans le fond, regardons ce qui s'est passé dans les CHSLD. C'est un exemple où le confinement n'a pas été bien fait parce qu'on n'a pas pensé à toutes les façons dont cette transmission pouvait se faire. Et on a dit aux familles de ne pas aller voir leurs proches hébergés dans les centres. On a dit les personnes ne doivent pas sortir, mais on n'a pas pensé aux préposés qui se promenaient d'un centre à l'autre. Mm-hmm. Donc finalement, c'était pas un confinement qu'on a fait. On a confiné une partie des gens et on n'a pas réussi. C'est pour ça qu'on a échoué dans les CHSLD. Autre exemple, les tests. On n'avait pas assez de tests. Ils ont dû gérer la pénurie de tests au Québec. Alors, ils ont testé uniquement les personnes prioritaires, ce qui est bien parce qu'il faut il faut séparer les personnes qui sont infectées des personnes qui ne sont pas infectées. Mais étant donné qu'il n'y avait pas assez de tests, ils ne pouvaient pas tester les personnes qui n'avaient pas de symptômes ou qui n'avaient pas voyagé. Or, on sait que presque la moitié des gens qui sont infectés n'ont pas de symptômes. C'est comme si on disait dans une école où il y avait une épidémie de poux, on demandait juste aux parents des enfants qui se grattaient la tête de regarder la tête de leurs enfants.
Ouais.
Les poux ne disparaîtront jamais de cette école-là parce qu'il faut que tout le monde vérifie s'il y a des poux ou pas parce qu'on peut ne pas se gratter. Alors, COVID, la même chose. La moitié des gens n'ont pas de symptômes. On ne les testait pas parce qu'ils n'avaient pas de symptômes. Alors, ça a continué à se répandre. Et on n'a pas osé imposer les masques. Donc, c'était une barrière de moins. À mon avis, on a juste mal confiné. Et c'est pour ça que notre confinement, elle dure 2 mois et demi et on arrive à peine à descendre maintenant.
Mais on s'est basé quand même sur un modèle extrêmement dramatique où on parlait de c'est un modèle de fin du monde. Là. Quand on lit la note, quand on lit ce bilan qu'en fait l'Institut économique de Montréal, on s'attendait à des milliards de morts sur la planète. Il y a quand même des pays qui ont résisté à ça. On parle de la Suède, du Japon, de la Corée du Sud, de Taïwan, là, la Norvège aussi qui commence à dire, bon, avoir su, on l'aurait fait autrement. La prochaine fois, c'est sûr que c'est ça qui risque d'arriver. Probablement que nous aussi, la prochaine fois, puis il y en aura une, hein, Dr Machaud.
Absolument, ça, ouais. Absolument. Il va falloir qu'on analyse tout ça pour voir qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. L'intéressant dans cette épidémie, dans cette pandémie, c'est qu'il n'y avait pas une formule, il n'y avait pas de médicaments, il y a eu des tests à disposition, mais tout le monde n'y avait pas accès. Alors, chaque pays a fait différemment. C'est après la crise qu'on va pouvoir tirer les bonnes conclusions. Qui a bien fait? Mais on a beaucoup critiqué, par exemple, le modèle suédois, que c'était quand même risqué. Mm-hmm. C'était quand même risqué. Je suis pas sûre que les Québécois auraient apprécié qu'on suive le modèle suédois. Je suis pas certaine. Le modèle anglais ou pour l'immunité collective qui a été prôné au début de l'épidémie, ben ils se sont très très vite rattrapés parce que c'était quand même un pari très risqué d'offrir un genre de vaccin naturel où il y avait un 5% de mortalité associée. C'est quand même le gouvernement a dû prendre des décisions avec beaucoup d'inconnus. Et à mon avis, ils ont pris des décisions, mais pas assez, parce que dans un contexte comme une maladie qui se répand très, très rapidement, quand même, le temps est un élément clé pour la lutte contre cette épidémie. Puis nous, on a tardé à chaque fois à prendre des mesures. Regardez juste la fermeture des aéroports ou le contrôle des voyageurs qui arrivaient. À partir du moment où il y avait déjà beaucoup de cas en Chine, en Iran, en Italie, il aurait fallu déjà aviser tous les voyageurs qui arrivaient ici, si on ne voulait pas fermer les frontières, qu'ils s'en aillent en quarantaine. On a trop tardé. Ouais. On a trop tardé l'imposition de la quarantaine.
Bon, ouais. Et pourtant, en Alberta, en Colombie-Britannique, déjà là, dès la fin janvier, on a commandé massivement du matériel de protection. Nous, au Québec, on regardait ce qui se passait en Chine, puis on se disait, hey, mon Dieu, on est chanceux, hein, pauvres autres, mais nous, ça ne nous touchera pas. On était, je veux dire, je ne vais pas lui lancer la pierre non plus, mais le docteur Arruda, il était même en vacances. Il était en Suisse pour une conférence sur le cannabis, puis ensuite, il est allé passer des vacances au Maroc, c'était fin février. Je veux dire, c'est clair qu'on n'était pas là, nous. On ne voyait pas ça du tout venir ici, là.
Non, on voyait pas ça du tout venir ici. Aujourd'hui, le Canada a dépassé d'à peu près 10 000 cas la Chine, qu'on pensait que c'était la fin du monde. Et beaucoup d'autres pays aussi ont dépassé le nombre des cas en Chine. Et pourtant, la population chinoise n'a rien à voir avec la population canadienne au point de vue du nombre de la démographie. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le monde, ni en fait, personne ne pensait que ça allait prendre ces ampleurs-là. Personne ne pensait, c'est vrai, on en a parlé, on a dit la grippe espagnole et tout, mais personne pensait que 6 millions allaient être atteints. Les premières prévisions sur lesquelles le gouvernement québécois s'est basé pour faire ses provisions de masques ou personnel ou je ne sais quoi, et ses mesures, et au maximum, il disait au pire scénario, on va avoir 18 000 cas. Mais là, aujourd'hui on a dépassé amplement ça.
Ouais. Est-ce qu'on peut quand même dire... On a bien géré ça? Est-ce que c'est normal que le gouvernement... Que ça soit normal, je pense qu'ils le disent, mais est-ce que c'est normal d'avoir un doute quand on entend, par exemple, François Legault dire « Non, je trouve qu'on l'a bien géré pareil, cette crise. »
On aurait pu faire mieux. Pourquoi la Colombie-Britannique, au début de leur épidémie, ils ont eu des cas dans les CHSLD et ils ont très rapidement mis le paquet sur le contrôle dans les CHSLD. Pourquoi nous aussi, on a eu des premiers cas. Dans les 10 premiers cas au Québec, il y avait des gens qui étaient dans les CHSLD, il y avait des éclosions dans les CHSLD. Pourquoi on n'a pas pu se préparer plus rapidement? Il y a évidemment énormément de problèmes. C'est une crise de santé publique et la santé publique était amputée de ses budgets depuis des décennies. Ça, c'est un problème majeur. Et jusqu'à il y a peut-être 2-3 semaines, ils étaient encore au papier-crayon dans le traçage des cas. Là, c'est ça.
Ah, ouais.
Moi, j'en reviens pas.
Ouais.
Dans une épidémie où le temps est un facteur clé pour agir.
Merci beaucoup, beaucoup, docteur Nima Machouf. Merci bien pour cet éclairage.
Ça m'a fait plaisir, Isabelle.
Docteur Machouf est épidémiologiste à la clinique du quartier latin. Vous avez été ici, vous êtes très nombreux à vouloir intervenir, je suis contente. On va vous donner la parole, bien sûr, là-dessus. C'est important. On a, bien sûr, toujours avec nous Gaëlle Campan, qui est l'économiste à l'Institut économique de Montréal. On regarde parce que c'est un peu lui qui a parti la discussion là-dessus. Puis je trouve que c'est une discussion importante à avoir. Je vous le dis, c'est comme la question que personne ne veut poser, mais tout le monde en discute un peu à la maison. Je sais, vous vous le dites, coudon, on a-tu été trop confinés? On nous a-tu confinés pour rien? C'est sûr que là, on ne jette pas la pierre. Puis sincèrement, vous avez vu le sondage là, d'intention de vote des Québécois vis-à-vis de la CAQ. S'il y avait eu des élections là, ces jours-ci, 64 % des francophones du Québec voteraient caquiste. Je pense que François Legault, il a les coups des franges pour faire ce qu'il veut, puis c'est bien correct. Ça ne nous empêche pas, nous, de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux la prochaine fois. Il y a quand même des pays qui ont résisté au modèle extrêmement dramatique de milliards de morts et ils ont fait pas mal mieux que nous. Donc, je pense que c'est normal de se poser la question. À tout de suite, tout le monde. L'Institut économique de Montréal affirme qu'on a peut-être pris des moyens trop drastiques face à la COVID, puis que la prochaine fois, il faudrait peut-être se baser sur des modèles économiques qui sont beaucoup moins dramatiques, moins catastrophiques. C'est important pour le futur. Est-ce que ça nous amène à nous poser la question? Est-ce qu'on avait raison de nous confiner autant? Philippe, votre opinion? Bonjour, Philippe. Philippe, est-il là?
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends maintenant. Bonjour, allez-y,
désolé.
Philippe. Oui, c'est rien.
Donc, ma réponse à moi serait oui et non. Je pense que les mesures de confinement ont été totalement justifiées au début du mois de mars parce qu'on était face à une situation inconnue. Il y avait le retour des gens qui étaient de la semaine de relâche. Il y avait une situation également peut-être précaire dans nos hôpitaux et dans nos CHSLD d'emblée là, où on avait des taux d'hospitalisation qui étaient à la base élevés, ça fait qu'il fallait faire preuve de prudence. Là où peut-être j'ai un problème, c'est que là, maintenant, on a les chiffres, on le sait que la maladie, le coronavirus, l'Institut Pasteur, depuis déjà un mois et demi, sorti de ses études, qui dit que la mortalité de la maladie est de 0,3% sur la population totale. Et si on isole les personnes vulnérables, qu'on peut protéger tout en ayant un confinement qui soit beaucoup plus modéré que celui qu'on a vécu dans les derniers mois, dans les dernières semaines, pour le reste de la population, pour les gens en santé, pour les jeunes, pour les adultes même qui sont en santé, on parle de 0,003 ou 0,0.
Donc, vous dites finalement, quand on regarde ça, cette statistique, c'est comme...
C'est la balance des inconvénients. C'est la balance des inconvénients. C'est que là, on se rend compte qu'il y a de la fraude avec la PCU. L'industrie touristique est par terre. Il faut donner de l'argent à tout le monde. Puis comment est-ce qu'on va payer les maisons pour aînés si on a des milliards, des centaines de milliards de dettes? Ouais. C'est ça aussi. Pour nos aînés, il faut avoir une économie qui est en santé. Puis je vais terminer, si vous me permettez, Madame Maréchal, juste avec un exemple qui est assez flagrant. On a appliqué pendant 3 mois les mêmes mesures de confinement à Montréal, à New York et en Gaspésie. C'était la même chose. Les mêmes mesures. Comment est-ce qu'on peut penser que la Gaspésie est la même chose que la ville de New York et que Montréal?
C'est sûr
et certain qu'il doit y avoir des mesures qui soient adaptées en fonction du contexte de chacune des régions. J'habite la Gaspésie, c'est peut-être bloqué à l'est et à l'ouest. Il n'y a jamais eu de problème, les hôpitaux sont vides. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller s'entraîner? Pourquoi on ne peut pas aller au resto en respectant toujours les mesures de distanciation, puis le gros bon sens, puis les conseils de la santé publique? Mais on n'est pas obligé de confiner puis d'arrêter de vivre au complet pour une maladie, surtout quand on a les chiffres là, depuis déjà un bon bout de temps. Donc, c'était mon opinion.
Ben merci beaucoup, puis contente de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent en Gaspésie. Merci beaucoup. Donald, votre opinion sur ce confinement qu'on nous a imposé, est-ce que vous trouvez que c'est une mesure qui a été mal gérée? Tout à l'heure, la docteure Machouf disait « on nous a mal confinés ».
Oui, bonjour, Mme Marchal. Oui, moi, je crois que c'est dès la première semaine, toutes les consignes, c'est exagéré. Regardez où nous en sommes aujourd'hui, puis ça continue, là. On doit tout détruire, ce qu'on a construit. On doit envoyer tout le monde à la faillite. Quand, dès le départ, Mme Maréchal, si on aurait fourni des masques, puis le test de température à chaque endroit où on travaille, ou partout, là, on n'aurait pas eu besoin de ça. Parce que le test de température, s'il est bon en Chine, s'il est bon dans les aéroports, s'il est bon dans les entreprises un peu partout, pourquoi il ne serait pas bon ici au Québec? Regardez les restaurants, comment ils ont de la misère. Moi, en tout cas, je trouve que test de température, j'ai été sur le dentiste hier, Mme Maréchal, test de température, reste-toi là, t'es correct, on te passe. Moi, je n'étais pas bien astronaute là-dedans, là.
Ouais. Ouais.
Pourquoi on fait pas ça partout au place de tomber tout le monde en faillite? C'est ça. C'est mon opinion, Mme Marchand.
Ben merci, merci. Pouvez-vous, mon rechercheur, c'était aller à la vie, magasiner, chercher quelque chose, puis à la porte, il n'y avait même personne. Il y avait juste une bouteille de Purel comme ça. Fait que... Alors, voyez-vous, là, c'est comme deux poids, deux mesures. C'est ça qu'on a de la misère à comprendre. Merci beaucoup, Donald. Justement, on parle du coût économique. Il y a le coût social aussi. Mais le coût économique, là, va être important. Je pense que ça va être long à s'en remettre. On a appliqué le frein d'urgence. Tous les freins sur l'économie en même temps. Tout le monde confiné à la maison. Combien d'années ça va nous prendre pour se remettre de ça? C'est inquiétant. François Vincent est vice-président à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonjour, Monsieur Vincent.
Bonjour.
Quand je voulais avoir votre opinion sur cette note de l'Institut économique de Montréal, l'étude qui dit que bon, on a pris des moyens trop drastiques. La prochaine fois, il va falloir se baser sur des modèles peut-être moins dramatiques, moins catastrophiques, puis essayer d'évaluer de meilleures façons. Parce que confiner tout le monde de façon générale, c'était peut-être pas l'idéal. Vous voyez ça comment?
Ben, j'ai tendance à... Ça fait mal à l'économie. Nos entrepreneurs sont en train de tomber, mais j'ai tendance à avoir confiance quand même aux personnes qui nous gouvernent. Puis, tu sais, c'est difficile de prendre des décisions comme ça dans une situation de crise comme ça. Puis, il faut faire des décisions. Puis, si, admettons, ça avait été dans un... situation contraire, ben le topo de l'émission, ça serait comment on a géré ça? Il y a bien trop de morts, tu sais. Fait que ça, je pense qu'il faut prendre un pas de recul aussi. Puis quand on regarde dans les autres pays, en Chine, il y a eu des mesures qui ont été mises en place pour être capable de gérer les cas qui rentrent dans les hôpitaux, puis pas avoir des morts collatérales qui sont pas touchées par la COVID-19. Mm-hmm, mm-hmm. Maintenant, je dirais comme disait Jed Bartlett dans West Wing, hein, what's next? Ouais. On est rendu là, on va vivre avec ça jusqu'à temps qu'on ait un vaccin. Mais là, il faut réussir à apprendre à vivre avec ce virus-là, puis réouvrir l'économie, trouver une manière d'aider nos entrepreneurs à retrouver leurs affaires, justement, là, commencer le déconfinement, puis pour qu'on puisse justement limiter les impacts économiques à long terme, puis vivre avec ça jusqu'à temps qu'on trouve un vaccin.
Bien, évidemment, c'est sûr que vous parlez de l'économie, puis vous dites, bon, en même temps, il y a le gouvernement, on veut pas trop leur jeter la pierre, puis je comprends, puis c'est pas ça l'idée, là. En même temps, ce que dit la note, puis c'est un peu la conclusion de Gaël Campan, qui est avec nous, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal, on veut quand même que ceux qui nous gouvernent se basent sur... Je veux dire, c'est eux qui ont le gouvernail, là. Fait qu'on veut... C'est un peu ça, M. Campan, que vous dites dans votre étude en conclusion. Il y a quand même une responsabilité de leur part d'évaluer les meilleures sources d'informations, puis de se baser sur... Puis il n'y a pas question de mauvaise foi ici, mais d'évaluer quand même ce qui est le mieux pour l'intérêt public et économique. M. Campan?
Absolument. Et en fait, pour bien faire ça, il faut mieux le faire entre deux crises. Donc, quand on est au calme et qu'on a le temps de réfléchir, le temps de se préparer, d'inviter, je pense, des gens de différents horizons et de former des équipes multidisciplinaires qui pourront préparer pour la prochaine crise. On aura un dispositif prêt à l'action qui sera plus équilibré. On aura fait des stocks stratégiques de masques, on aura fait des stocks stratégiques de vaccins, parce que si c'est un nouveau virus, on n'aura pas le vaccin, mais on aura fait des stocks stratégiques de tout un tas d'équipements. On aura mis en place pour les populations les plus vulnérables, comme dans les maisons d'aînés, on aura mis des zones d'isolement qui permettront d'écarter les malades qui auront été touchés, de ne pas contaminer tout le reste de l'établissement. Toutes ces choses-là peuvent être faites en amont, de sorte à ce que le jour J, on n'ait pas besoin de prendre une décision dans l'urgence, mais au contraire, on a envisagé les scénarios et les dispositifs, les mesures sont en place pour être activés avec un minimum de dégâts pour le reste de la société.
Il y a quand même un encart dans votre étude, M. Campan, puis on va se laisser là-dessus, où ça dit « Au Canada, le coronavirus est jusqu'à présent légèrement pire qu'une mauvaise grippe saisonnière ». Là, évidemment, au moment où vous avez écrit cette note, c'était le 12 mai, 5169 décès. C'est beaucoup plus que ça aujourd'hui. Ne serait-ce qu'au Québec, on est rendu, en date d'hier, 11 heures, à 4885 décès par COVID-19 au Québec seulement. Donc, ça a quand même dépassé le stade de la mauvaise grippe, là.
Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que on sait que cette saison, en tout cas, il y a un certain nombre d'observateurs, médecins. Hein. Moi, je suis pas médecin, mais il y a des médecins qui regardent ça de près, qui disent que, par exemple, en particulier la grippe cette année était relativement faible. Et donc, du coup, quelque part, c'est le virus qui a pris le relais en termes d'infection de personnes les plus sensibles. Un deuxième volet qui est un peu plus compliqué. On a publié récemment une autre note économique qui expliquait la différence entre mourir avec le virus et mourir par le virus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on sait que maintenant les personnes qui décèdent principalement, elles sont dans une tranche d'âge très élevée. On sait que l'âge médian, par exemple, des décès au Canada, c'est 84 ans. Et donc, ces gens-là meurent de comorbidité, d'autres causes, en fait. Et il se trouve qu'elles sont enregistrées comme étant décédées par le virus, quand en fait, elles sont décédées avec le virus. Donc, c'est pas du tout une réflexion de type complotiste ou quoi que ce soit. Hein. Je pense que les données sont collectées de bonne foi. Simplement, comme on ne connaît pas la prévalence exacte du virus dans la population aujourd'hui, et donc les gens qui l'ont sans symptômes, etc., on ne peut pas affecter correctement les excès de décès qui sont liés spécifiquement au Covid.
Mais
donc il y a un peu une subtilité technique qui demande un peu de recul pour s'exprimer sur ce sujet qui est très sensible.
Ouais, et on c'est pour ça qu'après la pause, on va avoir le médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique, le docteur Serre, qui va nous dire un peu, qui va réagir à votre étude. Merci beaucoup, Gaëlle Campan, économiste à l'Institut économique de Montréal. Merci beaucoup, François Vincent, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. On s'arrête ici. On va parler au docteur Gaston Deserre, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Mais avant, il y a Réal qui veut nous donner son opinion là-dessus, sur ce confinement. Est-ce que vous pensez qu'on nous a mal confinés, qu'on nous a confinés trop tard ou trop? Réal, votre opinion là-dessus, Réal?
Ben, écoute, je suis d'accord avec ton dernier spécialiste qui a parlé que peut-être les choses ont été un petit peu pas mal exagérées. Mm-hmm. J'ai commencé à me questionner, moi, quand il a annoncé à un moment donné à la télévision qu'il y avait 4000 morts en Italie qui étaient décédés. Écoute, je suis juste allé faire des recherches un petit peu sur Google, puis j'ai été voir le taux de mortalité qu'il y a déjà eu au niveau du rhume seulement par année. Il y avait 65 000 morts annuellement. Et là, j'ai commencé à faire des recherches un peu partout et je me suis questionné. J'ai fait comme, on ne nous donne pas l'heure juste. Là. Je me sens un peu comme, on a une famille de 10 enfants. T'en as un de malade, mais les 9 autres, ils sont punis. Là.
Mm-hmm. Voilà.
À un moment donné, il faut faire la part des choses. Et on sait déjà que le virus n'atteint pas les enfants et probablement les ados et les gens bien portants. Ouais. Donc, il y a à peu près 95% de la population qui ne sont pas atteints. Et on nous confine tous.
Voilà. Merci, merci. Puis il y a quelqu'un qui est d'accord avec vous, Isabelle m'écrit, c'est comme si on met toute la famille en chimio pour un membre, un proche qui a le cancer. On comprend là, ce que les gens veulent dire. On va aller voir tout de suite le docteur Gaston Deserre parce qu'il est épidémiologiste justement à l'Institut national de la santé publique du Québec qui a conseillé le gouvernement. Bonjour, docteur Deserre.
Bonjour.
Alors, on voulait votre réaction après toute cette heure de discussion et à la suite de l'étude de l'Institut économique de Montréal, qui, quand même, le titre est évocateur. Ça dit qu'on s'est basé, c'est vraiment un modèle défectueux qui a confiné le Canada. Êtes-vous d'accord?
Non. Je pense qu'il y a différentes choses qui doivent être considérées. D'abord, là, les gens parlent, il y a beaucoup de monde qui meurt de la grippe. Monsieur Campan en parlait. Écoutez, au Québec, on calcule qu'à chaque année, là, on a à peu près 400, peut-être 500 morts dus à la grippe par année. Alors, puis ça, c'est pour toute une saison pendant laquelle on fait pas beaucoup plus que, évidemment, on donne la vaccination, mais pour le reste, on fait pas d'autre chose. Ici, on est déjà rendu à plusieurs milliers de morts, là, puis malgré le fait qu'on a fait énormément pour réduire la transmission. Je pense qu'à peu près tout le monde, quand on regarde, là, l'Institut économique de Montréal a tiré à boulet rouge sur le travail qui a été fait par les gens de l'Imperial College, mais en faisant une comparaison qui est extrêmement boiteuse. Les données qu'ils mettent dans leur tableau, là, dans lesquelles l'Imperial College disait si on laissait les choses aller et que tout le monde continuait à fonctionner comme il fonctionnait, on aurait au Canada des centaines de milliers de morts. Mm-hmm. Bien, je vous dirais, ça, c'est évidemment ce qu'on aurait eu si on avait eu 70-80% de la population qui avait attrapé la maladie. Et évidemment, parmi ceux-là, il y en aurait eu plusieurs qui seraient décédés. Puis en plus, évidemment, comme le système de santé aurait été largement excédé, bien à ce moment-là, même des gens qui auraient pu être soignés et sauvés en temps normal seraient décédés parce qu'il n'y aurait pas eu assez de monde pour les soigner. Donc, je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, actuellement, ce qu'on sait, c'est que la maladie a infecté un petit pourcentage de la population. Donc, de comparer un chiffre de décès si l'infection avait traversé toute la population à ce qu'on a maintenant qu'on a, bon, on estime qu'à Montréal, puis là, on va le savoir d'ici à peu près un mois, avec l'étude qu'on fait avec Emma Québec, quelle proportion de la ville de Montréal, de la population adulte a été infectée, mais on s'attend à quelque chose entre 5 et 10 %. Bien évidemment, c'est pas la même chose si ton taux de mortalité est basé sur 5 à 10 % ou s'il est basé sur 80 % des gens qui ont fait l'infection. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, ils ont quand même, je dirais, là, fait une comparaison qui est très boiteuse. Mmh. Ceci étant dit, est-ce que l'idée de mettre complètement la société sur pause, c'est la seule avenue? Bien, en fait, je pense qu'actuellement, le déconfinement, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est de recommencer à fonctionner avec, je dirais, une façon d'interagir qui va nuire le plus possible à la transmission du microbe. Mmh. Donc, je pense que quand on regarde comment la maladie a évolué à une vitesse très, très grande dans la région de Montréal, je peux vous dire quelque chose, c'est que si les mesures qui avaient été prises avaient été, légères, on n'aurait pas les chiffres qu'on voit là. Ça serait vraiment beaucoup plus sévère que ce qu'on a eu déjà malgré ça.
Oui. Il y a quand même la question des CHSLD, docteur Desserre, qui va devoir être analysée parce que...
Ah, totalement. Là, vous avez raison. Là. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute que, c'est sûr que, donc, il y a un effet de l'âge qui est considérable et des milieux où on a concentré beaucoup de personnes qui sont très âgées, très malades, évidemment, ça les rend extrêmement vulnérables dans une situation comme la nôtre.
Oui, mais on a dit aux aînés, restez chez vous. Et en même temps, on avait des anges, des préposés aux bénéficiaires qui rentraient puis qui sortaient, qui passaient d'un endroit à l'autre. Là, il y a eu du laxisme quand même. Peut-être qu'on n'a pas allumé, qu'on ne le savait pas, mais la prochaine fois, c'est clair qu'il va falloir faire autrement.
Je pense que vous avez totalement raison. Il y a plein de choses qui doivent être très, très, très sérieusement améliorées. Il y a, je pense que ce qui s'est passé depuis le début de la pandémie, là, c'est pas du tout ce qu'il faut répliquer là pour la suite des choses.
Voilà.
Alors je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer et à ce niveau-là, je pense qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain là. Je pense que les gens de l'Institut économique de Montréal, quand même, d'essayer de dire comment on peut, je dirais, combattre.
Ça ouvre la discussion, ce qui est intéressant. Merci beaucoup, docteur Gaston Desserre. Merci bien. On s'arrête pour les nouvelles.